photographes ont déjà sorti leurs appareils. On est à Cannes. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière après-midi de la Foire du Livre de Brive. Avant de commencer la rencontre, je voudrais préciser deux choses. C'est que vous pourrez poser des questions si vous en avez. Donc, sinon, vous pouvez essayer d'en formuler pendant les trois quarts d'heure où nous allons parler. Puis après, je vous laisserai le micro. Et aussi, les auteurs seront pour encore une heure, je pense, sur leur stand pour dédicacer leurs livres. Donc, vous pourrez aussi poursuivre la discussion tête à tête en allant les voir sur leur stand. Voilà. Alors, dans Le commerce des allongés d'Alain Mabankou, un homme assiste à son propre enterrement et veut revenir dans le monde des vivants pour se venger. Dans Un miracle de Victoria Mas, une religieuse, Catherine Labouré, puis un jeune breton, près de deux siècles plus tard, voit des apparitions de la Sainte Vierge. Alain Mabankou et Victoria Mas nous entraînent dans les limbes, cette région indéfinie entre deux eaux, entre deux mondes, et ils interrogent l'inexplicable. Le miracle de la foi, de l'amour, qui n'est jamais très éloigné de la folie des hommes. Ces deux romans peuvent aussi se lire comme des fables, allégories de nos sociétés où le mal se dissimule parfois, même chez les êtres persuadés de vouloir faire le bien, et où le royaume des morts est encore une réplique du royaume des vivants. Pour paraphraser saint Paul dans un épître aux Romains, je dirais que les voies de Dieu sont décidément impénétrables, mais pour la littérature, quelle aubaine! Alain Mabankou, j'ouvre le bal avec vous.
Oui.
Vous êtes écrivain, mais aussi poète. Vous êtes professeur de langue française. Vous vivez toujours en Californie ?
Toujours.
Toujours ?
Depuis 20 ans.
Et donc, vous êtes arrivé il y a quelques jours en France. Vous nous faites la joie d'être à Brive.
Oui, je pense. J'ai un peu la voix cassée parce qu'on était au Cardinal.
On peut pas être à Brive sans aller au Cardinal.
Voilà. Donc, si vous n'avez jamais été au Cardinal pendant le salon, la Foire du Livre de Brive, c'est que vous n'avez pas achevé la lecture de la feuille de route pour venir ici. Donc, oui, j'étais venu en France depuis août, puis. J'ai fait un peu de la rentrée littéraire, puis j'étais reparti aux États-Unis pour une semaine. J'habite à Los Angeles, juste pour voir mes chiens. C'est pour vous dire que l'amour que j'ai pour les animaux est proportionnel à celui que j'avais pour ma mère et que j'aurai toujours, parce que nous pensons toujours que les esprits des êtres humains sont... protégés à l'intérieur de l'univers des animaux. C'est pour cela qu'il nous est difficile parfois de comprendre ce que les animaux pensent. Mais eux, ils savent tout de nous. Ils nous donnent le maximum d'amour possible et nous ne sommes même pas au courant. C'est désespérant. C'est désespérant pour un chien, un chat, un oiseau qui vous regarde, qui vous a donné de l'or et vous tournez le dos pour aller vers les ténèbres. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas un billet perdu, parce que quelqu'un m'a dit, mais c'est du capitalisme, là, comment tu payes un billet pour aller voir les animaux, puis tu reviens. J'ai dit, oui, je le ferai pour ma mère, je le ferai pour les animaux, je le ferai pour toi et pour nous, et je le ferai pour venir à Brive, la Gaillarde. Ça s'appelle retomber sur ses pattes, hein, pour aller dans la
Côte. Bravo.
Voilà. Et je suis là, voilà.
En 2007, vous êtes rentré au Collège de France.
Oui.
Quelle est votre
mission ? Par la petite porte.
Par la petite porte, mais
non,
vous y êtes.
Non, j'ai rigolé. Voilà.
Tout
les portes sont toujours grandes au Collège
de
France.
Tout le monde rentre par les mêmes portes. Quelle est la mission ?
Quelle est la ?
La mission. Une fois qu'on est au Collège de France, est-ce qu'on a un devoir ?
Mais disons que quand on m'avait nommé au Collège de France, moi, je passais devant le Collège de France, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. C'était une sorte de maison, on dirait qu'il y avait des francs-maçons à l'intérieur, les lustres. Il y avait toujours personne dehors, mais il paraît que beaucoup de choses se passaient dedans. Et donc, quand on m'a dit « professeur au Collège de France », je ne savais pas. J'ai reçu un email parce qu'on ne vous nomme pas professeur au Collège de France par quelques présidents ou quoi. C'est l'ensemble des professeurs qui se réunissent et qui choisissent quelqu'un pour donner une chaire. Et moi, je n'aurais jamais su, puisque je ne suis pas rentré dans le canal de l'université dans lequel j'aurais fait l'agrégation. Quoi. Moi, j'ai 17 ans d'expérience d'enseignement en tant qu'écrivain. Donc j'étais loin de penser qu'on me nommerait pour aller au collège. Et donc quand ils m'ont nommé, j'ai dit bon, je vais ramener la littérature africaine au Collège de France. Le Collège de France a été créé au XVIe siècle et depuis le XVIe siècle, ils n'ont jamais enseigné la littérature africaine. On m'avait dit, mais vous verrez, il n'y aura personne, les gens n'aiment pas, c'est trop ciblé, etc., etc. Il y aura 3-4 nostalgiques de la colonisation qui seront au premier rang pour vous écouter, d'autres par pitié pour que la salle ne soit pas vide. Et on m'a tracé le tableau le plus sombre qu'un peintre ait peint dans l'histoire de l'humanité. Et j'ai fait mon cours tranquille, etc. Le jour de la leçon inaugurale est arrivé. On avait prévu dans une petite salle. La grande salle, c'est la salle Marguerite de Navarre. Là, c'est les grandes pompes. On m'a vu dans une petite salle, on mettait là 150. Les gens étaient arrivés 1300. Marguerite de Navarre, 450 places. Eh bien, ils ont immédiatement ouvert des salles avec la télévision. Donc, il y a des gens qui regardaient la télévision. Ils ont eu des journaux comme 20 minutes. Voici. Au Collège de France. Hein? Pourtant, il n'y avait pas une star qui était là.
Vous avez amené la révolution au Collège
de
France.
Et au premier rang, le président Hollande est quelque part ici. Le président Hollande avait envoyé tout son gouvernement. Ils étaient alignés les uns après les autres. Hein? Il y avait le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie, et tous. Et il y avait une chaise vide au milieu. J'ai dit, mais c'est quoi là? Il dit, c'était le ministre de la Culture du Congo-Brazzaville, qui n'était pas venu de mon pays d'origine. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à l'appeler le ministre de l'inculture. Voilà.
Alors, je rappelle brièvement, parce que vous êtes tellement...
Il faut me couper, hein, parce que...
Ah, mais on est là pour vous écouter.
Parce que je veux entendre...
Et on va écouter Victoria Mas, bien sûr. Je rappelle juste, parmi les livres que vous avez publiés, vous aviez eu le prix Renaudot 2006 pour mémoire de Porc-Épic. Vous êtes aussi l'auteur de Black Bazar, Demain j'aurai 20 ans, Le sanglot de l'homme noir. En 2012, vous aviez eu le prix Henri Gall pour l'ensemble de votre œuvre de l'Académie française. Également le prix littéraire du Prince Pierre de Monaco aussi pour l'ensemble de votre œuvre. Et vous êtes, comme vous l'avez dit, originaire du Congo, Congo-Brazzaville.
Il y a quelque chose que j'aimerais que vous rappeliez quand même, qui me rattache à Brive.
À Brive.
Je suis aussi membre du jury du prix de la langue française qu'on décerne à Brive-la-Gaillarde. Il ne faut pas être... charité bien ordonnée commence par nous-mêmes.
Commence par ça.
Voilà, merci.
Brive. Saluons la ville de Brive.
Voilà, merci à M. le maire s'il est quelque part. Voilà.
Et vous avez donc dans ce roman renoué donc avec votre pays d'origine, Congo-Brazzaville, et vous parlez de cette enfance à Pointe-Noire où vous avez grandi. Qui est donc une capitale économique du Congo et une ville côtière qui a beaucoup d'importance donc, dans le commerce des allongés. Qui est l'histoire donc, d'un jeune homme qui se retrouve dans le cimetière, qui est décédé et qui va mettre un certain temps à comprendre qu'il est passé de l'autre côté, dans le royaume des défunts. Qui est cet homme, Liva Ekima Kingai, qui est déjà extrêmement bien habillé?
Oui.
La sape a beaucoup d'importance dans vos romans.
Mm-hmm. Oui, bon. Je ne sais pas par quel bout de cimetière passer. Donc je pense que... Mais disons que j'ai écrit cette histoire...
Présentez-nous le personnage.
Voilà, mais le contexte déjà, parce que sinon on risque de croire que c'est un livre des morts vivants qui sont en train de boire le sang à la Dracula. Non, c'est, j'avais lu une dépêche dans laquelle on disait qu'il y avait une très belle fille qui venait chaque fois dans les boîtes de nuit pour séduire les garçons et emporter leur âme dans l'autre monde. Et ce jour-là, le jour de la fête de l'indépendance, mon personnage principal, qui s'appelle Liwa Ekima Kingai, qui s'habille très bien, adepte de la société des ambianceurs et des personnes élégantes, décide qu'il va un peu s'amuser en boîte de nuit et il va dans cette boîte qui s'appelle le cérémonial. Et là, il croise cette belle fille assise à côté. Elle est tellement belle que, vous savez, nous les garçons, c'est toujours comme ça. Quand la fille est belle, on dit, c'est pas possible, elle est occupée. Ben, les filles aussi, c'est la même chose. Le garçon est beau, c'est pas possible, il est occupé. Et donc, parfois, eh ben, chacun rentre à la maison sans rien. Et donc, ce jour-là, ils se reconnaissent, ils ont fait tout ça, voilà. Et ce jour-là, c'était le cas. Il arrive, il voit, il convainc la fille. Finalement, il arrive à faire une première danse. C'est pour ça qu'il y a les descriptions de la rumba congolaise, de cette danse qu'ils ont. Et comme d'habitude, quand arrive 2h, 3h du matin, je vais aller. En France, on va dire, est-ce qu'on peut aller prendre un dernier café? Mais au Congo, on ne prend pas le café, sinon ce n'est pas bon. Et donc, il décide de dire à la fille... je t'accompagne. La fille dit non, je t'accompagne, non. Bon, puisque tu insistes, et puis il l'accompagne. Le fait de l'avoir accompagné va sceller peut-être son destin. Et donc le roman va commencer au moment où vous voyez un personnage qui surgit de la tombe et qui se rend compte qu'il est arrivé à un moment donné et qui cherche à comprendre ses dernières heures, qu'est-ce qui s'était passé. Et quand les lueurs commencent à venir, il dit « je vais descendre dans la ville pour aller vraiment essayer de me venger en quelque sorte parce que je ne peux pas accepter de mourir dans ces conditions ». Et pendant ce périple, on a 4 jours de funérailles qui sont détaillés. On a la puissance des femmes qui sont dans les marchés qui est mise en valeur. On a toute la politique, on a toutes les religions, les questions des esprits, des sorcelleries, jusqu'à l'acte final, puisqu'on avait commencé par le couple. Et bien, à la fin aussi le couple. Donc,
mais là, vous allez trop vite, vous en dites un petit peu.
Non, j'ai rien dit. Est-ce que j'ai parlé du chanteur bossu?
Oui, maintenant.
Non, mais je viens. Est-ce que j'ai parlé de la femme corbeau? Est-ce que j'ai parlé des jumeaux?
Racontez-nous un peu le...
Est-ce que j'ai parlé de... Non, j'ai rigolé.
Ce qu'incarne, en fait, ce cimetière du frère Lachaise, qui est, pense, en rappeler le cimetière à Paris du Père Lachaise.
Oui.
Et qui, contrairement au Père Lachaise, qui est un cimetière extrêmement prestigieux, où on y va quasiment comme dans un musée, où on visite les tombes, le frère Lachaise, à Pointe-Noire, vous dites que c'est le cimetière... des gens de conditions assez pauvres comparé à un autre cimetière. Donc déjà, là aussi, il y a une sorte de dichotomie qui reflète en fait ce qui se passe dans la ville, dans le monde des vivants.
Ça, c'est l'aspect du livre dans lequel vous allez voir qu'il y a des inégalités même dans la mort. En France, un personnage le dit, c'est plus facile d'entrer à l'ENA que d'entrer au Père Lachaise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, tous ici, on peut avoir le concours de l'ENA, mais tous ici, on ne mérite pas d'avoir notre tombe au Père Lachaise. Et il y avait, à cette époque du roman, la grande polémique des riches de la ville qui ne voulaient plus être enterrés à côté des pauvres. Parce qu'ils disaient que les pauvres ne savaient pas mourir, ils embêtaient les cadavres des autres. Donc les riches avaient payé la campagne électorale du président avec pour attente... que le président leur garantisse un cimetière qui s'appellerait le Frère Lachaise. Mais les pauvres avaient entendu que les riches voulaient appeler leur cimetière le Frère Lachaise. Les pauvres en ville se sont précipités à appeler le leur le Frère Lachaise. Et donc, comme les riches ne pouvaient plus prendre ce nom qui était déjà dans l'esprit des autres, les riches ont simplement dit « bon, on ne va pas l'appeler le grand frère Lachaise ou le cousin Lachaise, on va l'appeler le cimetière des riches. » Mais les deux cimetières, il y a des relations. Le chef du cimetière des pauvres, le jour des morts, il se déplace pour aller boire du Bordeaux, discuter du général de Gaulle, chez les riches là-bas, de la France. Il y a des bagarres qui continuent. Hein, il y a par exemple des gens... qui se disputaient une femme, ils sont morts tous les deux, mais la femme est restée, mais les bagarres des défunts continuent jusque là-bas. Voilà.
Et ce monde que vous nous montrez, qui est en fait à l'envers du monde des vivants, puisque quand Liva se réveille, il se rend compte que la gauche est à droite, la droite est à gauche, que sa tête est en bas et ses pieds sont en haut.
Que qu'est-ce que ce centre qui n'est plus au centre, hein,
voilà. Donc finalement, il y a un effet miroir entre les deux mondes, entre le royaume des défunts et le royaume des vivants. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Qu'est-ce que votre livre dit sur la société des vivants ? Qu'est-ce que vous voulez montrer ? C'est qu'au Congo-Brazzaville, contrairement peut-être à la France, à l'Europe, il y a une mixité, une proximité plus forte entre les défunts et les vivants ?
Je pense que dans les sociétés africaines, il y a cette proximité. La mort n'est pas une étrangeté. C'est la poursuite de la vie au-delà. Et c'est le contraire, peut-être, de la vie. C'est pour cela que quand mon personnage ressurgit de la tombe, les choses sont à l'envers. S'il veut aller, par exemple, tout droit, il ne faut pas aller tout droit, il faut aller derrière. S'il veut, quand on vous appelle derrière, c'est qu'on vous appelle devant. Donc, il faut toujours faire les choses à l'envers. Là-bas, comme c'est retourné, le ciel est en bas, la terre est en haut, les arbres sont dans le sens contraire de la pesanteur. Et donc, il y a un spécialiste dans le cimetière, il y a un spécialiste qui vient aider les gens à retourner la chose. Mais si on vous a aidé à voir la réalité, il ne faut pas que votre première réaction soit de se dire « Maintenant que je vois les choses claires, il faut que je descende ». Pour aller voir ce qui est dans la vie. C'est pour ça que dès qu'il a commencé à voir clair, j'ai aligné un certain nombre de personnages qui étaient là pour le dissuader de se rendre en ville. C'était pour moi la façon de convoquer les mythes congolais, la façon de convoquer les traditions, la façon aussi de montrer quel rapport nous avons, nous, avec les ancêtres, avec les esprits. Quand ma grand-mère était morte, par exemple, ma mère a passé un mois à laisser de la nourriture dehors en me disant que la grand-mère venait manger la nuit. Et moi, ça m'inquiétait parce que c'est moi qui dormais au salon sur une natte, ils étaient dans la chambre. Je me suis dit un jour, je dois quand même surprendre la grand-mère quand elle viendra manger. Et ce jour-là, j'ai dormi d'un seul œil. Ils ont laissé la nourriture et puis... Ils sont allés se coucher et au bout d'un moment, je m'avance à côté de la porte, j'attendais. Et puis, quelques minutes plus tard, j'entends du bruit. Tchac, 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 tchac. J'ai dit, mais dis donc, les diables ont une manière de venir bizarre. Et elle arrive, tchac, 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 et arrive, quelqu'un en train de manger, je regarde, c'était un chien qui était en train de manger la nourriture. Et le lendemain, je dis à ma mère, mais... Ton histoire de grand-mère qui mange, non, c'est le chien qui est venu manger, un chien du quartier. La mère dit, mais oui, c'est normal. Je dis, comment c'est normal ? Mais la grand-mère est dans l'esprit de ce chien. Donc vous voyez pourquoi j'ai acheté un billet pour aller voir mes chiens. Et ça s'appelle retomber sur ses pattes. Voilà.
Alors vous me tendez une perche pour passer
ah bon
au...
Ah bon ?
C'est dingue, au roman de Victoria Mas, puisqu'il est aussi question chez vous, justement, de ce désir de croire, de cette force qui pousse les unes et les autres, puisqu'il est question de beaucoup de femmes, de voir des miracles dans certains hasards et dans certains événements de la vie. Et après, c'est à chacun aussi d'interpréter en fonction de ses croyances. Victoria Mas, vous avez d'ailleurs appelé votre roman « Un miracle ». Il y en a peut-être plusieurs à l'intérieur de ce livre. Il s'ouvre avec, premier miracle, les apparitions à Catherine Labouré, qui depuis est devenue une sainte, qui a permis la création donc des filles de la charité, la médaille miraculeuse qui est rue du Bac, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Et près de deux siècles plus tard, au bout du Finistère, en face de Roscoff, sur la petite île de Basse, un jeune garçon, Isaac, va lui aussi voir une apparition de la Vierge. Entre les deux, une autre religieuse qui appartient toujours à cette congrégation des filles de la charité est envoyée, sœur Anne, pour aider sœur Delphine, pour être dans le monde et avoir une mission. Dans quel état d'esprit est cette femme qui finalement n'a jamais quitté la rue du Bac, n'a jamais quitté sa congrégation, qui a aussi une histoire très compliquée, qui est arrivée chez les sœurs très jeunes ? Comment avez-vous... former, créer ce personnage.
Bonjour à tous.
Je suis ravie d'être aux côtés d'Alain aujourd'hui. Et c'est vrai que je trouve que pas mal de thèmes lient nos deux livres, et on aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais oui, en effet, un miracle suit d'abord le parcours de Sœur Anne, qui, donc, vous l'avez dit, est fille de la charité, et qui n'est jamais sortie de la rue du Bac, alors que c'est une congrégation à vocation apostolique, c'est-à-dire que les Filles de la Charité, un petit peu partout dans le monde, œuvrent auprès des populations les plus précaires, les plus démunies. Et Sœur Anne a trouvé néanmoins son confort et sa sécurité dans une vie tranquille, une vie de routine, une vie de rituel au sein du couvent. Néanmoins, elle porte un rêve en elle qui est celui de voir la Sainte Vierge lui apparaître un jour. Elle souhaite être de ces bienheureuses comme Catherine Labouré, comme Bernadette Soubirous, mais principalement Catherine Labouré, puisqu'elle marche un petit peu sur ses traces. Et c'est le jour où une autre sœur prophétise, lui annonce que la Sainte Vierge va lui apparaître en Bretagne, qu'elle profite d'une mission provinciale pour se rendre à la toute pointe du Finistère Nord. Sauf que, alors, sans trop rentrer dans les détails, mais ce n'est sur place, ce n'est pas elle qui va voir, mais un adolescent qui semble pris de vision depuis plusieurs soirs, qui semble être dans un état semblable à ceux des voyants qui disent ou qu'on dit voir la Vierge.
Il y a un bouton qui s'appelle stop.
Voilà.
Ça arrive. Ça c'est les Nokia.
C'est un téléphone antique, dis donc.
C'est Nokia, madame. Ah, mais Nokia. Ça continue en plus. Hein.
Il va falloir que vous répondiez.
Oui. Ah. Oh, quelqu'un a piraté votre ligne. Ça, c'est pas normal. On va aller à la rue du Bac.
On repart en Bretagne, du coup. Voilà, et donc on est un petit peu, en effet, je parlais des thèmes qui lient nos deux romans, on est en effet à la frontière, au croisement de plusieurs mondes, et je pense qu'on pénètre même, en tout cas, plusieurs mondes, ceux qu'on pénètre, se rencontrent, se heurtent, et c'est bien... Bien cette porte qui s'ouvre sur un autre monde, sur le monde de l'invisible, sur le monde des questions, sur le monde des doutes, qui va soudainement, alors d'abord précipiter cette sœur dans la tourmente, puisque non seulement ce rêve lui est refusé, mais qui plus est, il est accordé à un autre, hein, puisque ce n'est pas elle qui voit, c'est un adolescent.
Il y a une certaine jalousie qui pointe.
Bien sûr. Elle se révèle, elle se découvre elle-même jalouse, elle se découvre orgueilleuse, puisqu'elle découvre qu'au final, cette vie de service, cette vie de renoncement au monde, elle en attend quelque chose, elle attend une récompense. Alors on explique d'où vient cet orgueil, on explique d'où vient cette attente. C'est une blessure d'enfance qu'elle va au final devoir véritablement affronter, qu'elle pensait avoir mis de côté, ou du moins dont elle pensait avoir fait le deuil. Et il n'est jamais véritablement possible, je pense, de guérir de ces blessures d'enfance tant qu'on n'en a pas fait l'expérience physique et psychique la plus éprouvante et la plus violente. Et c'est ce que Sœur Anne va devoir affronter. Et c'est également cet événement, donc par définition, par nature invisible, qui va néanmoins faire chavirer toute la communauté de Lille.
Ce que vous montrez très bien dans votre livre, c'est à quel point un miracle va perturber l'ensemble de la société, qui est une toute petite société, puisque là, il s'agit de l'île de Basse, qui est vraiment donc une île assez microscopique, donc avec juste quelques personnes qui habitent là. Et en fait, cet échafaudage qui est assez fragile, finalement, entre des personnes qui se disent très croyantes, ce père de famille qui va à tous les dimanches, qui se rend à l'église, qui va lui aussi être ébranlé dans sa foi, dans sa croyance. Et finalement, ce petit miracle, d'ailleurs, le prêtre a cette phrase assez prophétique, il espère encore que le jeune garçon a menti, parce qu'il dit « n'est jamais bon d'avoir vu ».
Oui, c'est vrai que, en fait, à partir du moment où un événement, ou du moins l'invisible, ou du moins l'inconnu vient surgir dans notre quotidien, tout le monde en est affecté et tout le monde en est troublé. Dans votre roman, Alain, lorsque justement votre personnage marche et se promène dans les rues, tout le monde lui demande de retourner exactement d'où il vient. Enfin, il suscite à la fois la colère, de très vives réactions sur son passage. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est vraiment un catalyseur de toutes les émotions humaines. Il y a à la fois ceux qui vont adhérer
rentrer immédiatement à la parole du voyant, quand bien même le personnage d'Isaac ne dit jamais exactement ce qu'il voit. On ne sait même pas s'il voit véritablement quelque chose. Il y a également tous ceux qui vont avoir une réaction vive, mais opposé, c'est-à-dire une réaction de colère, une réaction de déni, une réaction en opposition à celle qui, justement, a priori, est belle, hein, celle de la piété, celle de la foi, celle de l'adoration. Mais à partir du moment... En fait, ce qui est intéressant, c'est à quel point quelque chose qui, par définition, n'est pas démontrable, quelque chose que personne ne peut identifier, quelque chose que personne ne peut voir, ne peut prouver au travers des sens qui nous sont accessibles, parce que c'est ainsi que nous faisons l'expérience de notre monde, hein, c'est au travers de nos sens. Dès qu'un événement vient éventuellement apporter cette éventualité-là, évoquer ce possible... les êtres en sont profondément et durablement bouleversés. Et voilà, et également, c'est vrai que dans ce phénomène des apparitions mariales, c'est-à-dire les apparitions de la Sainte Vierge qui ont été recensées au fil des siècles, la plus connue étant voilà, celle de Lourdes avec Bernadette Soubirous, ceux qui, la plupart du temps, remettent en question la parole des voyants, ceux qui en doutent le plus, c'est les autorités religieuses, c'est le curé, c'est le clergé. Ceux qui devraient se réjouir le plus, hein, justement, d'une apparition et d'une visite sur Terre sont ceux qui en sont le plus méfiants. Et...
Dans le processus de reconnaissance d'un miracle et d'une apparition, il y a des longues enquêtes qui sont menées donc, par la hiérarchie au sein de l'Église. Comment est-ce qu'une jeune femme comme vous s'intéresse à un tel sujet, hormis le fait que déjà avec votre premier roman, tout le monde s'en souvient, Le bal des folles, on comprend que vous aimez vous éloigner peut-être de votre vie pour sortir de ce qu'on appelle l'autofiction. Mais comment avez-vous eu envie de vous mettre dans la peau de cette femme, sœur Anne ?
J'avais pour idée de partir en effet du personnage d'une religieuse, parce que je trouve que les religieuses sont absolument fascinantes. Et je pense que je ne suis pas la seule, puisque lorsqu'on les voit marcher dans la rue, elles suscitent cette curiosité-là, elles suscitent cette fascination, elles semblent avoir un temps d'avance sur nous, un savoir d'avance sur nous. Qu'y a-t-il de plus fascinant également que cette vie de renoncement, ce choix délibéré d'un quotidien de rituel, de prière, de répétition ? Après, c'est véritablement voilà, m'intéressant d'un peu plus près à la biographie de Sainte Catherine Labouré et plus largement au phénomène des apparitions mariales que ce sujet des psychologies des foules, des psychologies des individus face à l'invisible, face à l'extraordinaire, a retenu mon attention au-delà du caractère religieux, au-delà de la mystique chrétienne, puisque je n'écrivais pas du tout ce livre d'un point de vue religieux, d'un point de vue personnel. Quand bien même, plus j'écris des romans qui sont éloignés de moi, plus ils sont intimes. Je pense que les manuscrits précédents que j'avais pu écrire auparavant, qui n'ont pas été publiés, qui relevaient en effet d'un travail d'autofiction, étaient au final beaucoup moins intimes et beaucoup moins personnels que cela. Donc il est évidemment très difficile de me retrouver dans un personnage, mais ils portent tous néanmoins mon ADN. Et je pense que c'est l'éloignement qui permet justement ce rapprochement-là, si on peut lier ces opposés.
Est-ce que pour décrire cette congrégation et ses sœurs, vous avez été amenée à en rencontrer, à enquêter, ou est-ce que vous avez laissé libre cours à une imagination ?
J'aurais aimé, mais nous étions en pleine période de Covid et ça tombait mal. Mais je me suis rendue plusieurs fois à la chapelle de la Médaille. Mais l'idée n'était pas d'écrire non plus sur la vie du couvent, sur cette congrégation-là, mais bien de suivre le parcours et la psychologie d'une femme qui a choisi de devenir religieuse, peut-être pour les mauvaises raisons, et qui va devoir affronter son passé, sa blessure d'enfance, qui va devoir affronter son propre orgueil, sa propre jalousie, faire le deuil de ce qui était dormant en elle et qui s'est réveillé au final au travers de ce périple, de cet événement qui va surgir et qui va avoir lieu en Bretagne. J'aime mettre en scène des personnages qui vont être confrontés à un événement inattendu, un événement imprévisible qui, du jour au lendemain, va les bouleverser complètement et va les forcer presque à remettre entièrement en question toutes leurs certitudes, toutes leurs croyances. Je pense que les questions importantes, les questions du moins difficiles, s'imposent à nous parfois comme d'énormes claques et qu'il ne tient qu'à nous de nous adapter à cette situation et soit de tomber, soit d'apprendre et d'en faire un enseignement et non pas une chute.
Alors vous avez une phrase qui pourrait s'appliquer, enfin, j'aimerais savoir ce que Alain Mabankou en pense. C'est un de vos personnages qui dit Ce n'est pas tant la médaille qui est miraculeuse. Personne n'a jamais remis en question les propos de cette novice. Dès lors qu'on ne doute plus, c'est là que surviennent les miracles. Vous aussi, dans votre livre, Alain Mabankou, dans les 4 jours, qui vont être les 4 jours du deuil, il y a des rites avec des femmes qui prient, avec des gestes qu'on répète à chaque fois qu'on enterre un mort.
Oui, il y a des gestes, il y a des automatismes. Mais j'aimerais aussi saluer le génie d'un miracle, le roman de Mas. Quand vous le lisez, vous avez l'impression qu'elle a réinventé pratiquement le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est pas facile d'embrasser la question spirituelle en matière de fiction. Et d'autant plus, la question est difficile que quand on voit le personnage de l'écrivain, on se dit comment elle a fait pour embrasser cette sorte de bénédiction divine et de la concentrer dans une histoire romanesque qui nous fait entrer dans des univers dans lesquels on pensait qui étaient impénétrables, mais qui, sous sa plume, deviennent des miracles dans le même temps.
Limpide.
Et je discutais hier avec un écrivain qui est aussi chez Albin Michel. Cette maison d'édition a subi une certaine fraîcheur en nous redonnant aujourd'hui des écrivains neufs, des écrivains en quelque sorte qui sont en véraison, des écrivains qui apportent ce souffle que nous apporte aujourd'hui Victoria, en embrassant des thèmes qui ne sont pas faciles, mais qui en réalité sont les questionnements de ce temps, parce que notre époque souffre de l'absence de la spiritualité. Parce que tout le monde pense toujours avoir une idée à dire sur la spiritualité, mais personne n'est jamais allé gratter au fond pour voir prendre ce personnage féminin. Ce personnage me rappelait, dans le croisement, le personnage qui est dans le roman La Femme Corbeau, qui est la Jeanne d'Arc de la République congolaise. Parce qu'elle était morte dans les mêmes conditions.
Sur un bûcher,
à cause de ses convictions, elle a été vraiment brûlée vive en public, pour donner un exemple. Sauf que dans ce sens, donc le doute, on retombe sur le doute, c'est que cette femme était convaincue que le monde était en perdition lorsqu'il s'attaquait aux enfants, à l'innocence. Donc toute sa vie, cette femme l'a passée en attaquant tout ce qui était des pédophiles, tout ce qui touchait à l'enfance, et en récompense, les hommes politiques. Donc dans ce roman, cette fois-ci, c'est les congrégations religieuses, mais de l'autre côté, c'est les hommes politiques qui vont se rallier pour repousser cette femme religieuse et la brûler vive. Sauf que, en se réincarnant dans le cimetière, justement, du frère Lachaise, cette femme est devenue comme celle qui donnera la parole essentielle à mon personnage,
à votre narrateur,
pour lui dire que dans ce monde, si vous avez la chance de la résurrection, utilisez cette deuxième vie dans le but de faire des choses qui sont justes et de donner de l'amour à ceux qui n'ont jamais eu la chance d'en avoir. Et c'est peut-être ça aussi la force d'un miracle. C'est le livre qui nous donne l'opportunité de donner de l'amour à ceux qui en ont manqué durant toute leur existence.
Il faut une certaine forme de courage pour écrire sur la spiritualité comme vous l'avez fait, tous les deux d'ailleurs, à des étapes plus ou moins différentes de vos vies, puisque Alain Mabankou, vous avez déjà énormément écrit, vous êtes un écrivain très reconnu pour Victoria, c'était un exercice peut-être un peu plus scabreux puisque c'était votre deuxième roman et qu'en France, on dit souvent que l'épreuve du deuxième roman est la plus compliquée pour rentrer sur la scène littéraire française, qu'on est encore moins pardonné que pour le premier. Et j'aimerais d'ailleurs entendre, si possible, tout à l'heure le public à votre sujet, parce que je sais que vous avez beaucoup de succès. Et en effet, chacun à vos niveaux différents. Est-ce que vous avez eu cette conscience de la difficulté du sujet? Est-ce que vous vous êtes dit, ça me fait peur, non, je le garderai pour plus tard? Ou est-ce que ça s'est vraiment imposé à vous de manière inévitable?
Je pense qu'une histoire vraiment s'impose à vous et que c'est elle qui vient vous chercher et elle qui exige de naître et de lui donner naissance de la façon la plus juste, la plus respectueuse et la plus pertinente possible. Voilà, à partir de ce moment-là, si on commence à envisager un livre comme un objet ou comme un produit marketing en se disant, en étudiant le marché, les statistiques, et se dire tel sujet en ce moment n'est pas très en vogue ou justement je vais taper dans ce sujet parce qu'il est à la mode en ce moment et qu'il apparaît en tendance Twitter, je pense que c'est la meilleure façon de tomber dans l'échec. Ce qui compte et l'essentiel est véritablement le récit, et à partir du moment où ça vient vous chercher et ça s'impose véritablement comme une évidence et ça fait sens, tous les sujets sont risqués. C'est difficile d'appréhender la réaction d'un public, de lecteurs.
Mais disons que ça dépasse peut-être même aussi la littérature, la spiritualité en général. Peut-être qu'aujourd'hui, comme le disait Alain Mabankou, est un sujet qui n'est pas forcément à la mode ou qu'il est compliqué d'aborder en société, même entre amis, lors d'un débat ou d'une conversation privée. C'est vrai que vous allez peut-être vous heurter à des personnes pour qui le sujet est compliqué. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi le meilleur des sujets pour pouvoir laisser libre cours ensuite à son écriture ?
Si justement on n'explore pas des sujets qui sont un petit peu délicats, qui sont un petit peu difficiles, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qui véritablement fait consensus dans le débat public ? Les chats, tout le monde aime les chats. On pourrait écrire en effet des livres sur les chats.
Je ne citerai pas
l'auteur. Et encore, y a deux familles, y a ceux qui aiment les chiens, ceux qui aiment les chats. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai, c'est très difficile d'avoir un sujet qui mette tout le monde d'accord. Et plus un sujet est délicat, plus un sujet justement n'est pas évoqué et est discret, on va dire, plus c'est intéressant justement d'aller le chercher, d'aller le mettre en avant, de mettre un peu une lumière en fait sur ce sujet-là.
Et avez-vous l'impression que notre société en général manque de spiritualité ?
Je pense qu'au-delà de la spiritualité, je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord sur une seule et même spiritualité. Ça relève tellement de l'intime, ça relève tellement de l'individu et de l'individuel, qu'évidemment que ça reste un sujet délicat. Je pense qu'au-delà de la spiritualité permet d'amener des repères, et je pense que c'est ça peut-être qui manque un petit peu, c'est l'absence de repères. On évoquait tout à l'heure justement avec certaines personnes durant le déjeuner qu'il est de plus en plus difficile, ne serait-ce que d'aller visiter par exemple des églises, puisque la plupart d'entre elles maintenant sont fermées, parce que les gens pillent les églises. Et donc c'est l'individu qui vient imposer sa loi, qui ne respecte plus la loi du collectif, l'ordre social qui doit être respecté d'une certaine façon, parce que sinon ce serait l'hérésie, ce serait le chaos, pose en effet problème. Et cette absence de repères, cette absence peut-être de sacralité de certaines choses, après, sans que ça soit dans des lieux de culte nécessairement, vers quoi se tourne-t-on un moment pour trouver du confort ? Vers quoi se tourne-t-on pour trouver une certaine consolation ? La reine d'Angleterre, son décès a suscité de très vives émotions parce qu'elle était un repère au travers du temps. Elle était toujours debout, elle était digne, elle était constante, et je pense que cette constante-là, au travers d'événements historiques, de guerres, de pandémies, de pouvoir se retourner vers une personne qui, à un moment, à la fin de l'année 2020, je crois qu'elle avait dit « nous nous retrouverons », et ça, cette seule phrase venant d'une personne qui a traversé toutes les épreuves que l'histoire avec un grand H donne à connaître et à éprouver aux populations, eh bien ça console et ça rassure. Donc peut-être que nous manquons de repères qui nous confortent, tout simplement. Il ne tient qu'à nous de les trouver. Et au final, c'est très, vous parliez d'amour, hein, mm-hmm. c'est très facile au final moment de revenir à ça et d'être dans un rapport de bienveillance et d'amour. Ça paraît vraiment très simple à dire, mais dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours, aller à la boulangerie, échanger ensemble, vous parler, parler face à vous et échanger, c'est presque un acte d'amour au final qu'on fait, puisque c'est de l'échange et c'est du respect et on essaye de s'enrichir et de s'apporter mutuellement. Donc voilà, on n'a pas besoin d'aller très loin parfois pour revenir à des choses essentielles et peut-être que là, dans ce qu'on est en train de faire, il y a une forme de repère.
Alain Mabankou, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur le style de votre roman, ce que vous adressez à la deuxième personne du singulier, tu. Donc, on a l'impression que, déjà, c'est assez symptomatique de votre écriture, de votre style, qui n'est pas le cas de la plupart des romans en langue française. Ce choix, c'est aussi parce que le personnage enquête sur lui-même, s'interroge lui-même.
Oui, parce que j'ai toujours été, avant d'écrire un livre, ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est de trouver à quelle personne je vais. En général, j'utilise le « je », mais vous savez aussi que lorsque vous utilisez le « je », chez les lecteurs, ils vous associent immédiatement au livre, c'est-à-dire que c'est l'auteur. Voilà, si voilà, aujourd'hui maman est morte, je ne sais pas, vous dites, ah, c'est la mère d'Albert Camus. Mais si je dis, aujourd'hui sa maman est morte, ah, c'est pas la maman, la mère, c'est la mère d'un autre. Mais moi j'ai choisi le tu parce que je voulais me dissocier pratiquement de ces personnages, même si au détour de quelques chapitres, je lui donne beaucoup d'éléments que je tire de moi-même parce que, au fond, le roman, c'est aussi cet exercice qui consiste à habiller les choses.
Vous apparaissez aussi à travers les traits d'un autre personnage.
Oui, j'apparais toujours, ma mère, les parents, et ainsi de suite. Le tu a l'avantage de créer de la distance tout en gardant de l'intimité, puisqu'on tutoie. On ne sait pas qui raconte l'histoire. Tu te réveilles ce matin, tu regardes à gauche et à droite qui parle. On ne sait pas. Ce n'est plus le personnage qui parle, puisque le lecteur, lui, croit que le personnage principal, c'est l'auteur. Donc, mais qui est en train de parler de l'auteur? C'est ce gars qui est le tu. Et à ce moment-là, je sentais qu'en tant que lecteur, parce que moi, j'ai toujours été fasciné par la forme, en tant que lecteur, j'avais le bonheur aussi bien de guetter le narrateur qui est tu, qu'on ne voit jamais, qui est omniscient, et puis le personnage principal qui lui aussi va avoir des dialogues avec d'autres. Donc je voulais cette sorte de narration que je trouvais beaucoup aussi chez les conteuses au Congo-Brazzaville. Ma mère, par exemple, quand il racontait une histoire, elle aimait bien la troisième personne du singulier. Elle ne racontait pas en français puisque elle n'était pas allée à l'école, mais dans notre langue, il y avait ce côté. Hein, et il commence, et voilà, Ngeme Vumuka, Ngeme Kwenkuna, Ngeme Talmuntu. Ah, Yandina. Tu t'es levé, tu t'es rassis, tu t'es levé, le monstre était toujours là. Et je dis, ah bon? Mais comment ce monstre est là? Paf, elle est partie. Et dit, je te donne la suite tout à l'heure, je vais d'abord voir si la marmite est en train de bouillir. Et toi, tu es là, tu attends. Il arrive comme ça, bon, on en était où, et continue. Mais elle ne va pas faire apparaître le monstre là. Ça sera plus tard. Parce que je suis là, je ne dors pas tant que le monstre n'est pas apparu. Et puis arriver vers là, je sens que je vais bientôt dormir, et dit, comme tu dors, on continuera demain, tu verras, le monstre sera là. Voilà comment on donne un ton intimiste à quelque chose. Ma mère qui racontait l'histoire de ce monstre qui parlait à l'intérieur. Après, plus tard, j'ai compris que c'est des figures de style. Ce qu'on enseigne dans les écoles là-bas, des ateliers d'écriture, des creative writing, où on vous dit, le personnage « je », c'est un personnage narrateur parce qu'il est à la fois celui qui raconte et il est aussi le personnage. La troisième personne, « il », c'est un personnage omniscient. On ne sait pas qui c'est comme Dieu Il voit tout, il sait tout, il sait comment l'histoire se terminera, mais il vous embarque doucement, doucement. Et après, il y a des formes qui peuvent mélanger le jeu avec le tu, les il, ça devient plus complexe dans ce sens. Et je voulais aussi bien le petit vertige dans la construction, sous forme d'éveillé, mais aussi dans la narration.
On est presque dans un cours de creative writing, une masterclass, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans le public ?
Non.
La première est difficile, on prend la deuxième. Oui.
Allez, on passe directement à la deuxième. Ah ben ça marche, madame.
Voilà, elle est là. Ah, il y a un micro qui arrive.
Pour madame Victoria Mas.
Victoria Mas, est-ce que ces premiers ouvrages sont survenus suite à des signes que vous avez reçus de l'au-delà ou c'est juste une démarche personnelle ?
Non, alors je n'ai pas vu la Sainte
Vierge.
Attendez,
monsieur Mobutu, dans ce cas-là, je
Mobutu, m'en vais. Mobutu, c'était un président.
Mabankou. Mabankou, je me suis trompée.
Mobutu, c'était un président dictateur.
Oui, je me suis trompée, pardon pour l'équivoque.
Il n'y a pas de problème. C'était le voisin de tout le monde.
Ok, excusez-moi, mais...
Non, ma madame, on est ensemble. Non, c'est bien.
Victoria va vous répondre.
Moi, je demande ça parce que, personnellement, depuis mon enfance, ça m'est arrivé souvent. Donc, est-ce que cette démarche d'écrire, de le faire savoir, fut motivée par, initialement, une expérience personnelle ? Je ne pensais pas, monsieur, que ma question prêterait à rire. J'en suis véritablement très offensée.
Oh, très offensée. Non, mais madame, on est en famille. Non, ne vous offensez pas. Non, franchement, si vous avez pris le rire comme étant de l'offense, je m'en excuse profondément. Tout le monde sait que j'ai toujours cette attitude que je ris même de moi-même. C'est vous dire jusqu'où je peux porter de l'offense. Votre question a son poids. C'est ce qu'on appelle une question poids lourd. Si j'ai ri, c'était parce que je me dis comment je vais faire pour répondre. C'est pour cela qu'au lieu de répondre, je donne cette charge à Victoria.
Non, je vous remercie pour votre question et je ne pense pas du tout qu'il y avait de la malveillance de la part d'Alain.
Non.
De ma part, c'est parce que également tout à l'heure, je parlais du fait que l'histoire vient vous chercher, vient vous demander de naître. Donc, en effet, il y a une façon de parler de cette chose-là et qui est l'intuition, qui est l'inspiration. Je ne suis pas médium, je ne suis pas spirit, je n'ai pas les facultés de génie dans le bal des folles et je n'ai pas les visions qu'a Isaac dans mon roman, quand bien même ce sont des livres très intimes et très personnels, mais parce qu'ils abordent des questions qui sans doute me taraudent et que j'ai envie d'explorer et que j'ai envie d'approfondir et de mettre en scène dans ces livres. Mais je crois fondamentalement que l'écrivain, pour répondre à votre question, est moins un créateur qu'un passeur. C'est-à-dire qu'il est au service d'une histoire, il est au service de personnages qui vraiment viennent lui parler. Le sujet de mon troisième roman, sans le révéler, m'est venu d'une façon qui moi-même m'étonne, puisque en une phrase, ça a été, c'est l'histoire de... Alors d'où vient cette phrase ? Est-ce qu'elle vient de moi-même ? Est-ce qu'elle vient d'un ailleurs ? Qu'est-ce qui motive en effet d'un coup cette phrase aussi limpide et cette histoire au final qui du début à la fin s'impose à moi ? Je ne le sais pas, mais je pense que l'écrivain est un pont, est une passerelle, est un lien entre des choses qui le dépassent et des choses qui viennent lui murmurer à l'oreille et le papier. Donc c'est la meilleure façon, la meilleure image que je peux utiliser. Et tout ça reste très mystérieux, mais peut-être que je n'ai pas envie d'en connaître toutes les raisons. Et c'est peut-être mieux comme ça, cette part de mystère, hein, au final.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Victoria et Alain. Je suis navrée. Je dois arrêter la table.
L'inspiration, depuis même les romantismes, a toujours été représentée comme une sorte de force transcendantale qui arrivait chez le poète pour murmurer quelque chose. Donc les muses, qui faisait écrire les poèmes. Donc, il y a toujours et il y aura toujours une question spirituelle dans en matière de littérature. C'est peut-être ça qui nous réunit. Voilà.
Ça, oui. Oui, certainement. Merci. Et vous pouvez continuer à aller voir les auteurs sur leur stand. Bon après-midi.